Normalement, nous évitons de trop coller à l'actualité, et le RGPD a été mis en place il y a même pas 4 jours, d'ailleurs, au moment où nous enregistrons, puisqu'on est lundi soir. Mais l'impact de ce règlement européen va peut-être établir un nouveau standard mondial sur le respect de la vie privée. Nous en avions déjà parlé avec lui lors du dernier Capitole du Libre, où nous tentions de le démystifier. Et d'ailleurs, je vous recommande d'écouter la précédente émission avant celle-ci. Non, c'était une rediff, donc si vous étiez sur Radio FMR, sinon on mettra le lien vers la précédente, etc. J'ai donc exceptionnellement réinvité Benjamin Bénifet, consultant senior conformité juridique et privé ici chez Soprasteria, enseignant en droit du numérique à l'Université Toulouse 1 et Toulouse 3, membre du bureau de la délégation régionale du comité des jeunes juristes Midi-Pyrénées à la FJE, Association française des juristes d'entreprise, épicurien amateur de whisky et de cookies. CPU, carré, petit, utile.
Ça me correspond.
Tiens, goûte ces délicieux cookies qui sont faits maison et sans avoir à valider les CGU. Jures-tu de nous dire toute la vérité, rien que la vérité, sans bullshit commercial et pas la bouche pleine, s'il te plaît?
Je jure. Après toutes ces informations perso me concernant, je jure.
Super. Alors, au final, donc maintenant on est à la mise en application, ça fait depuis 2 ans quand même que c'était prêt à être placé, ça fait 1 an que nous on s'intéresse au sujet, enfin toi beaucoup plus que moi en tout cas. Est-ce que le RGPD a finalement été le nouveau bug de l'an 2000, le marketing de la peur, prétexte à nettoyage des services?
Alors déjà ça fait un peu plus qu'un an qu'on en parle, un peu plus que depuis la ratification par les instances européennes du règlement général qu'on en parle, puisque personnellement le RGPD ça fait bien 5 ou 6 versions de travail que j'ai lues différentes, donc c'est quelque chose qui était prévu, qui était attendu depuis longtemps, puisque c'est la mise à jour d'une directive de 95, ce règlement, et le marketing de la peur qui arrive 3 mois avant, 6 mois avant, 1 an avant, c'est un marketing opportuniste qui joue en fait sur le manque de préparation des entreprises, des administrations. Effectivement, il y a une mise en conformité à avoir, mais de là à faire peur aux entreprises, aux collectivités, surtout aux petites entreprises, surtout aux collectivités qui comme on le sait sont en manque de moyens, leur faire peur avec les amendes, leur dire vous allez avoir jusqu'à 20 millions d'euros d'amende. Ça va pas arriver tout de suite. Ensuite, il faut vraiment être vraiment ne pas être en conformité. C'est le marketing de la peur a marché, mais je pense que la CNIL, les instances européennes ont essayé de débunker un peu tout ça, de démêler le vrai du faux.
Moi, je me souviens qu'on avait eu, au moment du passage du bug de l'an 2000, on a eu des multiprises compatibles en 2000. Et donc, il y avait toutes les entreprises, enfin tous les secteurs d'entreprises qui étaient sous restriction budgétaire, qui avaient un budget spécial en 2000. Du coup, ils achetaient ça. Et là, tu as la même chose avec les broyeuses de documents. On a vu des broyeuses de documents 2 fois plus chères parce qu'elles étaient certifiées conformes à RGPD. What the bullshit?
Ouais, on a dit qu'on parlait pas, qu'on ferait pas de bullshit, mais oui, on en voit tous les jours en matière de RGPD du bullshit.
Et je crois que c'est pas fini d'ailleurs.
On voit des entreprises qui parlent de mettre en conformité des clients en un temps record, par exemple 2-3 jours. Bon, la conformité, c'est une démarche continue, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, en 3 jours, même avec un gros budget.
Donc, pour 1000 euros, j'ai eu un cabinet de consultants. Proposer une assurance et un Trello. Ils avaient pré-rempli. Et tout ce qui vaut de 1000 euros, c'est l'assurance, mais à mon avis, au premier passage, la boîte coule.
On voit tout.
Donc le RGPD et Media Mainstream n'en parlent que depuis 1 an. Est-ce que c'était assez pour que les entreprises s'en occupent, qu'on en parle dans le mainstream depuis 1 an?
Vaste question. Ça dépend le degré de conformité initiale, le degré d'où part l'entreprise, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, il y avait quand même une directive de 95 qui a été transposée dans les États membres et qui et qui s'appliquait donc depuis quand même un certain temps, et voir les entreprises découvrir qu'il y avait des règles en matière de respect de la vie privée, de respect des données à caractère personnel. Bon, c'est quand même, ça relève quand même un peu de la mauvaise foi.
Il y a aussi d'ailleurs un truc qui est à voir absolument exceptionnel, c'est le documentaire Democracy qui a été produit par Arte, par la télé allemande d'ailleurs, il me semble, où on voit la construction justement du texte de ce règlement avec en plein milieu la révélation Snowden, et du coup bon ben les 600 pages là de des ratas, vous les virez.
C'est vrai que le RGPD a quand même bénéficié d'un côté pendant les pourparlers avant qu'il soit adopté, a quand même bénéficié des révélations Snowden, et juste avant son entrée en application il a bénéficié des scandales Cambridge Analytica, Facebook, etc.
Alors on parlait tout à l'heure de mauvaise foi, est-ce que cela veut dire qu'enfin les commerciaux n'ont plus le dernier mot?
Je pense qu'ils l'auront toujours, mais il y aura quand même, des questions de vie privée, de questions de protection des données à prendre en compte un peu partout dans les process. Comme dans un process informatique, on ne prenait pas en compte la sécurité. Et puis il y a eu quelques attaques, il y a eu quelques lois en la matière. Et puis maintenant, dans tout projet, la sécurité est intégrée.
Ça fait depuis 18 mois, de toute façon, que moi j'étudie le dossier, toi, largement plus que moi. Et pourtant, j'en apprends tous les jours. J'ai appris d'ailleurs que les droits ne s'exercent que pour les personnes physiques. Donc, les protections du RGPD ne s'appliquent pas aux données personnelles des personnes décédées. Et on a encore beaucoup de flou sur certains points du RGPD. Il y a des zones de justement, quelle est la propriété des droits, est-ce que c'est marchandable ou non, etc. Que reste-t-il à faire pour le dissiper? Les lois nationales, la jurisprudence, une autre directive?
Alors, concernant donc le règlement en tant que tel, donc il s'applique partout dans le territoire de l'Union européenne de la même manière. Le règlement a néanmoins laissé certaines dispositions qui incombent aux États, qui peuvent à la marge adapter leur droit national, par exemple sur les mineurs, compter si c'est à 15 ou 16 ans qu'ils peuvent donner leur consentement, par exemple pour s'inscrire sur un réseau social. Donc il y a quelques ajustements à la marge. Effectivement, on attend encore les dernières lois nationales, parce que tous les États membres de l'Union européenne n'ont pas encore adapté leur droit national au RGPD.
Dont au moment où on parle
La France, puisqu'on attend encore la promulgation de la loi adaptant la loi informatique et liberté, puisqu'elle a été soumise au Conseil constitutionnel, et le gouvernement, je crois, n'a pas déclaré l'urgence sur cette loi, donc le Conseil constitutionnel a encore quelques temps pour répondre. Ensuite, on attend bien évidemment les avis des autorités de protection des données, en France la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, et aussi les affaires qu'il y aura devant les tribunaux, qui vont permettre d'affiner en fait l'interprétation qu'on peut avoir des dispositions du RGPD.
Et après, il y a une suite, puisque depuis un peu plus d'un an est entrée en discussion donc une nouvelle directive européenne qui s'appelle e-privacy.
Oui, alors la directive e-privacy qui adapte les règles de protection de la vie privée au monde dématérialisé, à l'internet, pour parler très grossièrement, c'était une directive, et suite à différents scandales, là encore, elle a été, le législateur européen a poussé pour que ça devienne un règlement, donc règlement, je le rappelle, qui s'applique de manière uniforme dans tout le territoire de l'Union européenne, sans avoir à passer
par
un véhicule législatif. Dans chacun des États membres.
On n'est pas dans la lettre d'intention, on est dans le « non, non, il faut que ce soit comme ça ».
Voilà. À la base, le règlement e-privacy, ce qui est un projet actuellement, devait s'appliquer le même jour que l'entrée en application du RGPD. Le problème, c'est qu'il y a eu pas mal de discussions, il y a eu pas mal de retard du fait des politiques internes au sein de l'Union européenne. Bon, ça va s'appliquer. C'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir des règles ensemble, d'avoir ces deux corpus normatifs ensemble, mais voilà, sachez, l'Union européenne tente de protéger les données à caractère personnel des citoyens. On y reviendra, je pense, tout à l'heure.
Personnellement, donc toi, tu es consultant envers des entreprises extérieures, donc on l'a dit, via une glorieuse nationale de S2I. vous avez fêté ça vendredi?
Pas vraiment.
Non, c'est pas vrai.
Il y avait beaucoup de travail, c'est pour ça.
Et nous interviewons Benjamin Bénifet, consultant senior conformité juridique et privé ici chez Soprasteria pour la mise à jour de nos conditions générales d'utilisation d'écoute de l'émission CPU suite à l'application du règlement général pour la protection des données. Arrête de marrer comme ça, c'est ultra intimidant. Le RGPD a créé un nouveau rôle, celui de DPO ou DPD, délégué à la protection des données. Mais toute la question est, que faut-il pour le devenir ?
Alors c'est très complexe puisque on a donc le texte du le RGPD qui pose certaines conditions qui ont été ensuite explicitées par le groupe de travail de l'article 29 qui était en fait un groupe de travail où étaient rassemblées toutes les CNIL, toutes les autorités de protection des données à caractère personnel de l'Union européenne. Et il y a donc tout un faisceau d'indices qui doivent permettre de trouver comment on peut être un bon DPO. C'est très difficile puisqu'il faut à la fois des compétences juridiques, des compétences techniques bien évidemment, des compétences organisationnelles. Il faut quand même avoir un rôle indépendant puisque il faut pouvoir tenir tête à certaines directions dans une entreprise, à certaines directions dans une administration également. On disait que le CIL, le correspondant informatique et liberté, qui était l'ancêtre du délégué à la protection des données, on disait qu'il était une sorte de mouton à cinq pattes. Là, c'est tout à fait la même chose pour le délégué à la protection des données. C'est vraiment un personnage étrange, ni technicien, ni juriste.
Il doit être capable de définir en fait, de mettre en place vraiment un schéma documentaire, de faire le cycle de vie d'une archive, de l'archive immédiate à l'archive définitive, à la destruction des données, de tracer tout ça, d'évaluer les risques sur les données,
d'accompagner les équipes projet,
complètement fou.
D'accompagner les équipes projet de bout en bout du projet, c'est complètement énorme pour une personne, surtout dans les grosses structures. Donc c'est souvent des équipes, je pense, qui vont être
en place. Pourtant entre les juristes et les informaticiens, il y a la même chose dans le code. Hein. Quand il y a un flou, ça c'est la voie ouverte à tous les bugs. Toutes les interprétations possibles.
Plus, on sait très bien qu'entre juristes et informaticiens, parfois, c'est pas le grand amour. Donc,
oui, tout à fait. D'un autre côté, supposons que tu as un lien de subordination dans une entreprise quelconque, que ce soit une PME, que ce soit un indépendant même, hein, qui intervient pour une agence ou dans une très grande entreprise. Ou même dans le public, que risque un développeur, que risque un concepteur UX, un graphiste, à contrevenir au principe du RGPD, notamment l'avis éclairé quant aux communications des données personnelles à un tiers. Et on commence à voir des pop-up qui font deux lignes avec bouton validé juste à côté de la scroll bar. Qu'est-ce qu'on risque quand c'est intentionnel ?
Même malgré le lien de subordination, on risque quand même sa place puisque on est censé aider son entreprise à respecter la norme. Bon, encore faut-il qu'elle vous ait alloué moyens et pouvoir pour ce faire. Mais oui, effectivement, contrevenir à la loi peut vous coûter cher. Bien entendu, légalement, le premier responsable peut être l'entreprise. Encore faut-il faire tomber la fiction juridique de l'entreprise pour ensuite attaquer la personne si c'est intentionnel, si on sort en fait de la faute qui peut être imputable directement à l'entreprise.
Ça se jouera au prud'homme là aussi. Ça va être rigolo. Les juges prud'homaux qui sont pas des juristes, qui sont des salariés et des employeurs. Ça, on va se marrer là.
Je ne préjuge pas des futures jurisprudences.
Pas mal. Et d'un autre côté, comment peut-on porter plainte contre un usage abusif des données personnelles, à la fois à l'intérieur d'une entreprise, en tant que salarié, que donneur d'alerte, que personne qui estime que, par exemple, le téléphone Alcatel, quand tu lances l'application calculatrice, c'est absolument anormal qu'il accède à ton carnet d'adresses.
Donc vous avez plusieurs moyens de recours. Le premier c'est vraiment de saisir la CNIL. Vous pouvez saisir la CNIL d'une plainte. Par exemple, quand vous avez demandé à une entreprise d'effacer les données vous concernant et qu'elle ne l'a pas fait, qu'elle continue par exemple à vous démarcher, vous pouvez très bien saisir la CNIL, la saisir d'une plainte. Il me semble que la plupart des contrôles de la CNIL ont lieu suite à une plainte d'une personne concernée. Donc n'hésitez pas, la CNIL veille. Bien évidemment, quand on s'estime victime, ça ne va jamais assez vite, mais il est possible de faire valoir ses droits via la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Mais tu as dit premièrement, mais en fait, ce qu'amène aussi le RGPD, c'est une grille de lecture pour les juristes. Donc ça peut être le DGCCRF ou ça peut être devant un juge.
Oui, on voit très bien que la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Répression
des Fraudes,
de la
Concurrence
et Consommation, voilà. On s'en rappelle jamais, le jour où elle changera de nom, on aura encore plus de mal.
Tu vois, c'est là que la radio, c'est très problématique parce qu'on n'a pas les sous-titres,
ouais,
pour les petites notes,
ouais.
Mais on a le site web.
Donc la DGCCRF en fait s'interroge de plus en plus sur les conditions générales d'utilisation, notamment des services en ligne tels que Facebook. Certaines conditions générales d'utilisation lui paraissent un peu abusives puisque certains traitements ou certaines obligations sont imposées au client, à l'utilisateur, et sans que celui-ci soit véritablement informé des finalités. Par exemple, derrière.
Ou même sans qu'il y ait un besoin absolu pour le service d'utiliser ces données personnelles.
Oui, puisque dans le règlement général sur la protection des données, les données collectées ne doivent être que strictement nécessaires à l'objectif poursuivi. Du traitement. Donc ça va réduire certains traitements. Par exemple, quand on vous demande tout un tas d'informations pour s'inscrire à une newsletter, techniquement, seul le nom, le prénom, au pire l'âge selon le contenu de la newsletter, si on arrive à le justifier, et l'adresse mail suffirait.
Et l'une des zones de flou, c'est la fameuse non-marchandisation possible de la donnée personnelle. C'est qui fait que pour aller sur une page Facebook, non, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire.
Alors là, on
est dans le flou.
On a plusieurs questions. La non-marchandisation, c'est-à-dire les données à caractère personnel ne sont pas dans le commerce, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas les vendre en tant que telles puisqu'elles font partie des droits de la personnalité, des droits de la personne. On ne peut pas les soumettre au commerce. Donc ça, le premier problème. Le second, c'était sur Facebook qui crée des profils fantômes. Alors là, c'est un problème encore plus délicat puisque Facebook se sert de données collectées notamment grâce à, enfin, ou plutôt à cause de vos amis réels qui collectent des données vous concernant, par exemple des photos, par exemple, ça peut aussi être les cookies de navigation, etc. Et crée des profils fantômes de personnes qui ne sont pas inscrites sur son réseau mais qui ont un profil à leur insu, et c'est quand même très dur à contrôler. Déjà, c'est très dur à prouver techniquement.
ça va être chaud, ouais.
Ouais, donc,
on va bien s'éclater, je sens, sur la suite. Et là aussi, l'une des grandes zones de flou, c'est pour ce qui est des fichiers et collectivités publiques. Parce que là, il faut pouvoir justifier que c'est vraiment dans le cadre du maintien de l'ordre, etc. Mais d'un autre côté, quand on va se garer et qu'on se retrouve à rentrer obligatoirement son numéro de plaque,
oui,
là, on va se marrer.
Là on a plusieurs problèmes, plusieurs problématiques, plusieurs questions qui ont lieu. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les collectivités publiques seront obligées de nommer un délégué à la protection des données. Il y a des seuils qui existent dans le texte, mais dès lors qu'on est une administration, on est obligé de nommer un délégué à la protection des données. Certes, ça peut être un DPD externalisé, un DPD mutualisé, par exemple dans une communauté d'agglomération qui regroupe plusieurs administrations, mais elles devront vraiment nommer ce chef d'orchestre de la conformité. Donc, sur la plupart de leurs obligations, normalement, les collectifs collectivités publiques devraient en sortir grandi de l'entrée en application du RGPD, bien que elles ne sont pas toutes en conformité depuis le 25 mai dernier, depuis vendredi dernier, mais petit à petit les chantiers se mettent en œuvre et on peut espérer un traitement beaucoup plus respectueux de la part des administrations dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Effectivement, ça va pas se faire en un jour, mais beaucoup, je peux parler de mon expérience, beaucoup ont mis les chantiers en œuvre et sont en train de se mettre en conformité.
Un des inconvénients quand même à l'application du RGPD, c'est que les informations nominatives du registre WHOIS, donc je rappelle un WHOIS, c'est là où sont stockés les noms de domaine des sites et liés à une adresse IP, mais il y a aussi les informations du locataire de ce nom de domaine. Et donc maintenant, ces informations sont anonymisées, on ne sait plus qui c'est, on ne connaît plus son adresse, ce qui ralentit d'ailleurs du coup la lutte contre le spam et les arnaques. Et là encore, c'est en pleine discussion, il y a entre l'ICANN et certains registrars, il y a pas mal de bagarres. Donc il est question aussi d'arrangement avec la communauté européenne, là aussi.
Ouais. Il me semble que l'ICANN est en train de traîner des pieds pour se mettre en conformité. Mais après, les WHOIS anonymes existaient déjà. Je pense à OVH qui, en France, en fait, fait écran et met des fausses informations, informations anonymisées pour
OVH est grand. Dit et c'était devenu le standard pour le .fr dès que c'était un individu derrière.
Ouais, c'est ce qui est une très bonne pratique en fait. La OVH ou Gandhi font écran, protègent les données à caractère personnel des personnes ayant souscrit à des services, notamment de notre domaine, donc chez eux. Mais s'il y a un problème, il faut se retourner vers OVH ou Gandhi et qui permettront de lutter efficacement contre le spam.
Donc ça veut dire que les données ne sont pas multipliées à foison et tout ça.
Il faut changer les pratiques pour être plus respectueux de la vie privée des personnes.
Et nous interviewons donc Benjamin Bénifet, consultant senior conformité juridique et privée ici chez Soprasteria, à l'occasion de la mise en prod du RGPD. Franchement, un vendredi quoi.
Oui, c'était 2 ans après la passation du texte européen, donc c'est tombé un vendredi.
C'est la preuve que ça manquait d'informaticiens, beaucoup de juristes en tout cas. On a l'impression que les entreprises françaises ont pris plus de retard que leurs voisins européens. Est-ce que c'est parce qu'on s'autoflagelle ?
Je pense qu'il y a un peu de ça, mais... Mais effectivement, on a vu les pouvoirs publics de plusieurs de nos voisins européens prendre plus à cœur les questions de protection de la vie privée. Et donc, on a vu notamment que ce soit en Allemagne ou même en Grande-Bretagne, des responsables politiques d'envergure se saisir de ces questions. Peut-être un peu moins tardivement que Mounir en France, par exemple. On a vu notamment donc l'autorité britannique, l'ICO, se saisir beaucoup plus du problème que la CNIL, puisque l'ICO a beaucoup plus de moyens et a beaucoup plus communiqué, beaucoup plus publié de guidelines, de lignes directrices à l'attention des entreprises, des particuliers, des administrations. Il y avait un travail pédagogique énorme qui a été fait par certaines autorités de protection des données. Et oui, c'est vrai, on peut. La CNIL n'a pas des moyens illimités, mais elle a essayé d'être la plus pédago possible. Ce qui, c'est vrai que sortir un guide pour les PME un mois avant l'entrée en application du texte, c'était un peu limite. Mais
et parler des tentatives d'escroquerie
à la toute fin,
oui. Ouais. D'un autre côté, il faut pas oublier aussi que la CNIL a un plateau téléphonique d'aide, donc c'est énormément d'aide personnalisée et par téléphone. Par souci d'anonymat, etc., qui soit demandé par certains. Alors que l'ICO, c'est une volonté de e-gouvernance purement numérique, que tout doit passer par du moteur de recherche. Et donc là, ils mettent des fiches extrêmement détaillées. Et voilà, il faut parler l'anglish.
Malheureusement, la CNIL a beaucoup moins de moyens que tous les spammers qui voulaient profiter du RGPD. Donc c'est triste à dire, mais c'est la réalité.
Et d'un autre côté, quelle est la position de l'Irlandaise Data Protection Commission, puisque c'est chez eux qu'il y a les principaux serveurs de Facebook, qui a la plus grande zone européenne de serveurs chez Amazon, et plein de services qui sont hébergés du coup là-bas.
Mais alors, ce qu'il faut savoir sur l'autorité de protection irlandaise, c'est que jusqu'à il y a quelques années, elle était carrément située dans un garage, dans un tout petit local à côté d'un supermarché. Je vous invite à aller à... Je vous invite à aller chercher.
Tu me donnes l'adresse.
Oui, on mettra la photo peut-être en entête.
Tu crois qu'il y a une microbrasserie dans le garage à côté?
Non, mais c'était pitoyable. Et bon, quand il y a eu quelques pressions des voisins européens sur bon, enfin la question de la protection des données,
le siège social d'Apple et tout ça.
Oui, ouais, voilà. Il y avait quand même pas mal de serveurs, pas mal de sièges sociaux dans d'entreprises du numérique. Donc, il a fallu quand même pour l'Irlande muscler un peu son jeu. Donc effectivement, elle a déménagé déjà il y a quelques mois où on est, je ne sais plus. Là, la commissaire qui a été nommée récemment est vraiment très proactive. Et surtout, j'ai vu ça ce week-end. Là, l'autorité irlandaise a changé de nom, a changé de logo, et vraiment fait, est beaucoup plus dans la pédagogie, et beaucoup plus dans le présentiel aussi, parce que ça, il faut qu'une autorité de protection pour être écoutée, respectée par les entreprises et les administrations. Il faut qu'elle sache montrer qu'elle est là, qu'elle sache rappeler son existence et éventuellement les sanctions ou les poursuites oui, qu'elle pourra engager.
Donc maintenant, ça, on dit plus. Et attention, hein. Maintenant, c'est attention à la sanction. Vous ouais. savez à combien. Hein.
Donc je pense que l'autorité irlandaise vraiment est en train de montrer les muscles. Mmh. Ça a été une pression de l'Union européenne. Il y a d'autres sujets sur lesquels l'Union européenne pousse un peu l'Irlande, notamment sur l'imposition d'Apple. C'est une autre affaire en cours. Bon, bref, mais je pense que oui, ils se sont enfin rendu compte qu'il fallait qu'il y ait une véritable autorité de protection des données en Irlande. Mmh.
Bref, il y a encore 2 ans, ça tirait à U et à DIA, et là en ce moment, au sein du groupe 29, il y a une convergence.
Je ne sais pas s'il y a une convergence entre les différentes autorités de protection des données, puisque enfin on voit quand même que notamment les autorités allemandes sont très strictes sur la mise en application des règles.
Le BFDI, ouais.
Voilà. La CNIL, donc l'autorité française, nous a dit plusieurs fois ces derniers mois que elle n'allait pas sanctionner dans les premières semaines, elle allait faire plutôt de la pédagogie. Et à côté, on a donc l'autorité des autorités en Allemagne, puisqu'il y a des autorités fédérales en plus là-bas, l'autorité britannique dont l'ICO dont on a déjà parlé, ou même l'autorité irlandaise dont on a également parlé, qui ont dit non, le RGPD, il faut tout mettre en œuvre pour être en conformité au 25 mai 2018. Et qui ont dit, nous, on va taper sur les doigts, on a fait de la pédagogie pendant un an, 2 ans, etc., etc. Et maintenant, il faut être en conformité, il faut vraiment que les entreprises, les administrations nous montrent patte blanche et nous montrent les actions qui ont réellement été mises en œuvre. Donc, c'est vrai qu'on a une dichotomie déjà dans l'entrée en application du règlement, puisque d'un côté on a la France qui enfin avec une CNIL qui n'est pas laxiste, bien au contraire, mais une CNIL qui nous dit nous on reste dans la pédagogie encore pendant un certain temps, et de l'autre on a des autorités plus offensives qui nous disent non, on va y aller dès cette semaine là actuellement. Donc on est le 28. On a vu certaines autorités déjà montrer un peu les dents, et d'ailleurs les autorités n'auront peut-être pas le choix, puisqu'on a eu déjà des plaintes déposées notamment par des associations, que ce soit l'association None of Your Business de Max Schrems, un étudiant autrichien, enfin ancien étudiant
c'était
autrichien.
C'était lui qui avait demandé tout son dossier à Facebook, qui s'est retrouvé avec quasiment un mètre cube de papier. Ouais.
Qui avait fait tomber le Safe Harbor, l'ancêtre du Privacy Shield, qui permet l'échange de données entre les États-Unis et l'Union européenne. Bref, ça mériterait une émission à part entière, mais donc on
ajoutera les liens sur le site.
Voilà, on a eu cette initiative. Il y a la Quadrature du Net en France qui a également porté plainte aujourd'hui même, donc le 28, et None of Your Business donc a porté plainte contre Google, plus précisément sur le système d'exploitation Android auprès de la CNIL. Donc la CNIL a reçu une plainte en français et en anglais, on peut aller la consulter sur internet, et donc la CNIL va devoir au moins se prononcer. Bon, ça peut prendre un certain temps, mais va devoir relativement rapidement se prononcer ou faire avancer ce dossier sur la conformité d'Android au RGPD.
Surtout que la CNIL peut dire ce qu'elle veut, mais en fait, donc, ce sentiment d'impunité relative des entreprises françaises, ça les protège en rien, puisqu'il suffit d'une plainte dans n'importe quel pays européen vis-à-vis d'elles. Donc c'est,
oui, si l'entreprise française traite les données de
c'est retardé
de
pour mieux se prendre
une... pays européen.
C'est retardé pour mieux se prendre une baffe, là.
Oui, je pense que techniquement, dès lors que l'entreprise a par exemple des clients dans d'autres pays de l'Union européenne, dans d'autres États membres, elle peut être visée d'une plainte par ces ressortissants-là.
Est-ce que le RGPD va freiner les entreprises européennes à l'export ? J'ai vu qu'OVH avait filialisé carrément son activité sur le territoire nord-américain.
Oui, donc concernant OVH, je ne préjuge pas donc de sa stratégie, mais ce qu'il faut voir, c'est que le RGPD quand même a une application très large. Dès lors que vous êtes situé sur le territoire de l'Union européenne, vous devez vous y conformer. Dès lors que vous visez des citoyens, même des personnes donc sur ce territoire de l'Union européenne, vous devez vous y conformer. Donc c'est très très large. Dire que ça va freiner les entreprises européennes à l'export, je ne pense pas. Au contraire, même dans des pays aussi libertaires que les États-Unis, il y a quand même une prise de conscience sur la protection de la vie privée. On l'a vu notamment avec différents leaks et différents scandales qu'il y a pu avoir. Cambridge Analytica, c'est en tout premier lieu des données concernant des citoyens américains. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience dans ces pays qui pourtant avaient une conception et une protection de la vie privée plutôt différente à la nôtre. Et au contraire, je pense qu'on va assister à une exportation du modèle de protection européen à l'international. Certes, une fois que les entreprises auront vu que ce n'est pas que des coûts, la protection des données à caractère personnel, c'est aussi de la confiance et donc peut-être plus de business à la fin. Je pense que c'est un modèle qui s'exportera. J'ose le croire. Je suis très optimiste, mais je veux l'espérer.
Ça, je viens de abonder avec toi. D'un autre côté, Trump a poussé une législation qui s'appelle la Cloud Act, qui concerne tout ce qui est justement hébergé sur les serveurs d'entreprises américaines, que cela soit ou non aux États-Unis. Ça concerne aussi les filiales, même basées en Europe. Qui permet en fait aux services de police sur moindre réquisitoire ou même sans petite lettre d'huissier de pouvoir récolter de la donnée personnelle sur n'importe qui dans le monde si ces données sont sur les serveurs américains. Comment l'Europe pourrait essayer de contrer ça ? Microsoft, quand même, ce qu'ils ont fait en Allemagne, c'est absolument fou. Ils ont même pas filialisé leur service, ils ont carrément proposé en licence leur service à Deutsche Telekom, comme ça, voilà, les services secrets américains ne peuvent plus rien y faire dessus, officiellement. Si un juge demande un papier, c'est que de la relation contractuelle, donc on est tranquille.
Oui, mais Microsoft, en fait, a quand même essayé de protéger les données des personnes situées sur le territoire de l'Union européenne en challengeant devant les tribunaux les décisions de magistrats américains qui voulaient que les données présentes sur des serveurs européens, mais ces serveurs étaient bien entendu utilisés par une entreprise américaine. Donc Microsoft a challengé ça, et c'est vrai que le Cloud Act a quand même mis une grosse épine dans le pied à cette défense, puisque techniquement désormais toute entreprise américaine peut fournir des données sur réquisition dès lors que même si les serveurs sont situés en dehors du territoire des États-Unis d'Amérique.
Là aussi, se poser des questions sur l'hébergement de services qui viennent d'accords bilatéraux, comme le paiement SWIFT, qui concerne que les paiements intra-européens que les États-Unis ont exigé d'avoir les serveurs sur leur territoire pour la lutte contre la drogue. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils fument. Ainsi que le fichier d'ailleurs des...
PNR.
Le PNR, oui. Ouais. Des vols aériens. Pour l'instant, c'est... là aussi, c'est une décision. Est-ce qu'on applique concrètement à toute l'Europe, etc.
Après, on a eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a quand même franchement recadré le projet de PNR, un projet de PNR. Donc, il y a quand même des garde-fous, mais ça prend quand même parfois du temps.
Bon, d'un autre côté, on a parlé de Facebook. L'audition le 23 mai dernier de Zuckerberg à la Commission européenne, bah, ça semble, ils ne semblaient pas franchement le concerner. Il y a même un montage assez hallucinant de Quotidien. On s'aperçoit que c'était exactement la même intervention qu'au Sénat américain. Est-ce que la lutte contre certains GAFA semble perdue? Ou qu'il va falloir tirer au boulet rouge? Ça... Tu sais pas.
Je ne sais pas. Ouais. Dire que la lutte est perdue, je ne crois pas, puisqu'on a, on commence à peine la bataille.
D'accord.
Non, mais là encore.
Mais d'un autre côté, quand tu vois que Facebook enlève de ses serveurs en Irlande des données des non-citoyens de la communauté européenne et qui vont faire vraiment un système à deux niveaux de services très différents entre ceux qui sont en Europe et ceux qui ne sont pas en Europe.
Oui, enfin, chaque jour, on a Facebook qui nous dit d'abord on applique le RGPD dans le monde entier, ensuite on l'applique uniquement à nos utilisateurs situés sur le territoire de l'UE, ensuite on le remet dans tout le monde, enfin dans le monde entier. Facebook ne sait plus sur quel pied danser.
Je crois qu'il faut peut-être l'aider dans ce cas-là. Hein.
Ouais, je pense qu'il faut l'aider et je pense que
faut qu'on les désinscrive alors.
Ouais. Peut-être pas se désinscrire parce que c'est la mauvaise solution, mais enfin sauf si vous y croyez vraiment, mais je pense que oui, il faut challenger comme le fait Max Schrems ou la Quadrature. Il faut challenger les conditions générales d'utilisation qui sont imposées en fait, notamment vraiment je vous invite à aller lire les plaintes qui ont été déposées contre les GAFA par ces deux associations. Le consentement est forcé selon ces associations. C'est vrai que quand on s'inscrit à Facebook, on voit Facebook qui nous dit nous avons l'intérêt légitime de vivre grâce aux publicités et donc vous ne pouvez pas vous opposer au traitement des données à caractère personnel.
La question de l'intérêt légitime, voilà. D'ailleurs, qui est utilisée par le journal Le Figaro. Ouais. Hein.
Oui, mais même le journal Le Monde utilise l'intérêt légitime. D'ailleurs, c'est marrant
C'est marrant de voir que c'est la presse française qui est la plupart des groupes de presse en Europe, d'ailleurs, sont les plus rétifs à refuser la publicité ciblée au final. Ils ont loupé le coche ou quoi ?
Oui,
ils espèrent le lobbying.
Je pense qu'avant, la presse se finançait par les abonnements. Désormais, c'est sur le ciblage et le traçage des lecteurs. Je suis pas sûr que ce soit le bon modèle. Là encore, je vais pas juger. Sachant qu'il y a un journal américain, un grand journal dont j'ai oublié le nom, mais on le mettra, je pense. C'est pas le New Yorker, mais bon.
C'est USA Today.
Oui, c'est USA Today qui a enlevé les trackers et qui a fait une édition spéciale de son site pour les utilisateurs européens. Et du coup, enlever tous les trackers, tout ce qui permettait de pister le lecteur. Et en fait, on est passé d'un site qui prenait 5 mégaoctets à charger à un site qui ne fait plus que 500 mégaoctets. Donc,
extrêmement lisible.
Extrêmement lisible, ouais.
Et d'un autre côté, il y a le Los Angeles Times, le Mercury News qui ont coupé.
Qui ont coupé l'accès aux ressortissants européens.
Tu sais quel est le point commun entre CPU, USA Today, Mercury News et Los Angeles Times? Chris O'Brien, qui d'ailleurs du coup a fait l'article dans VentureBeat, puisqu'il est correspondant pour l'Europe, il a dit ouais, mais quel manque de peau. Le fait que les entreprises, principalement européennes, bloquent désormais l'Europe, je parle pas de cloud qui eux ont carrément fermé, mais certaines entreprises américaines ont dit ben puisque c'est comme ça, on ne propose plus leur service à l'Europe, on fait un géoblocage. Est-ce qu'on ne doit pas le voir comme une chance? Un petit peu différente de la manière dont la Russie et la Chine ont provoqué la leur en bloquant Facebook, Google et tout le reste.
Je pense quand même que ces entreprises vont mûrement réfléchir et regretter leur choix de bloquer les utilisateurs venant du territoire de l'Union européenne, puisqu'en fait déjà les utilisateurs peuvent bypasser la protection. Un simple VPN permet de s'afficher comme un utilisateur américain alors qu'on est situé en Europe. Et je pense que c'est une perte de business pour tous ceux qui ne viendront plus sur ces sites, pour tous ceux qui ne seront plus pistés par ces sites. Donc je pense qu'ils vont continuer à pister et revenir, enfin redevenir accessible aux personnes situées sur dans l'espace de l'Union européenne, mais en étant plus conforme, plus respectueux de la vie privée, en laissant plus de choix aux utilisateurs. Certes, ce sera une question de temps parce que les entreprises américaines, comme d'autres d'ailleurs, pensaient qu'il fallait être 100% conforme au 25 mai, alors que non. Enfin, c'est la conformité. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un processus continu d'amélioration continue, de qualité continue. Et je pense que quand elles auront compris les logiques sous-jacentes au règlement, elles se mettront en conformité. Elles permettront aux utilisateurs de vraiment choisir comment, dans quel cadre elles acceptent que leurs données soient traitées. Et donc elles redeviendront accessibles, parce que c'est quand même une perte d'argent énorme, je pense, pour certaines entreprises.
Benjamin, merci beaucoup d'être revenu.
Merci pour l'invitation.